direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Radio Zone Onde Femme, comme tous les mercredis en direct depuis 17h jusqu'à 21h. Et de 17h à 18h30, eh bien c'est Remue Ménage en direct dans nos studios de Ferney que vous pouvez entendre, contrairement à notre jingle qui est un petit peu out of date, ce soir à 23h et demain à 11h. Mais aujourd'hui, pour notre direct, eh bien, nous vous proposons notre émission du mois, consacrée depuis 2 mois. Aux 500 ans de résistance des Indiens en Amérique. Et en l'occurrence, nous évoquons chaque mois l'histoire des femmes indiennes d'Amérique du Nord, leur vie, les légendes qui les accompagnent. Ça, c'est pour la partie histoire et tradition, sur laquelle qui est évoquée par Caroline Nithammer dans un livre magnifique qui s'appelle « Les filles de la terre ». Et puis, pour l'histoire contemporaine des femmes indiennes d'Amérique du Nord, eh bien, je vous raconte l'histoire de Lakota Woman, la femme Lakota, qui est une tribu des plaines de l'Amérique du Nord. C'est l'histoire, c'est la biographie de Mary Crow Dog qu'elle a écrit elle-même avec l'aide de Richard Herdoz. Alors voilà, aujourd'hui c'est notre troisième émission, notre troisième épisode des femmes d'hier et d'aujourd'hui dans l'Amérique du Nord, parmi les femmes indiennes. Mais tout de suite, je vous propose de faire une petite escapade dans l'Amérique du Sud, non pas parmi les Indiennes d'Amérique du Sud, mais parmi les femmes d'aujourd'hui. Une femme qui a été d'aujourd'hui, hélas, qui nous a quittés, c'est Elis Regina, une grande chanteuse brésilienne que nous écoutons avec beaucoup de plaisir.
Que ele nada resolveu.
Se eu não tive colher, vou deitar e rolar.
Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Que venta aqui, é o mesmo que venta lá.
C'était Elis Regina, qui est une chanteuse brésilienne qui a fait la joie de beaucoup de gens, qui hélas a disparu, mais qui nous enchante encore tellement beaucoup. Par exemple, ce disque est une compilation de toutes ses meilleures chansons qui a été réalisée en 1987 et qui a pour titre Personalidade. Pourquoi je vous parle du Brésil? Eh bien, parce que le Brésil est à l'honneur de l'actualité. Nous en reparlerons dans quelques instants. À Genève, c'est la rencontre média Nord-Sud et c'est Rio qui est au centre des préoccupations. C'est l'environnement qui est au cœur des préoccupations. Alors, dans quelques instants, quelques brèves nouvelles de cette rencontre. Mais tout de suite, une autre brésilienne, une jeune brésilienne, toute nouvelle dans la chanson, c'est Margareth Menezes. C'était Margareth Menezes, une nouvelle chanteuse dans le paysage de la chanson brésilienne, disons nouvelle chez nous bien évidemment. Elle était au festival de QI, de jazz si jamais vous avez eu l'occasion de vous y rendre. Alors Rio, je disais Rio, centre de l'actualité, puisque dans deux mois, le 3 juin très précisément, commencera la grande rencontre de tous les États autour de l'avenir de la planète. Et cette grande conférence, qui est la première depuis 20 ans, puisque la première tentative avait eu lieu à Stockholm il y a 20 ans, est, semble-t-il, un sommet qui vraiment est celui de la dernière minute et de la toute première urgence, puisque, au dire de M. Maurice Strong, qui est le président et organisateur en chef de cette grande conférence, un Canadien, qui, rappelons-le, cette conférence se fait sous l'égide de l'ONU, eh bien, il est plus qu'urgent d'organiser cette conférence et que dans cette conférence soit un succès. On ne peut pas se permettre un échec et surtout pas un échec qui serait déguisé en succès. Ce serait la pire des choses qui pourraient nous arriver parce qu'il y a urgence et si on ne réagit pas tout de suite, eh bien, beaucoup de choses deviendront extrêmement gravissimes pour la planète. Le thème de la rencontre, c'est environnement et développement puisque... bien évidemment, le sauvetage de la planète et l'avenir de notre planète dépend en priorité du développement qui sera possible pour l'ensemble des habitants de la planète et pas seulement pour un petit 20% tel que c'est le cas aujourd'hui, puisque 80% des autres habitants de la Terre vivent dans des conditions qui ne sont pas considérées comme bonnes, qui ne leur accordent pas même la satisfaction des besoins les plus primordiaux. Alors, à Genève, c'est la rencontre Média Nord-Sud qui a pour siège principal l'Université 2, où vous pouvez assister à presque toutes les rencontres. Il y a de nombreux films qui sont présentés en concours indépendant, en concours télévision, qui sont faits par des réalisateurs et des réalisatrices du monde entier, de beaucoup de pays du tiers-monde. Il y a tout un programme tout le long des journées. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, donc il faut vous presser. Et il y a eu diverses rencontres qui étaient aussi publiques. Par exemple, hier après-midi, il y avait une rencontre sur le thème « Les médias peuvent-ils sauver la planète ?» En d'autres termes, quel rôle les journalistes ont-ils à jouer dans l'information à propos de la planète ? Je participais à cette rencontre et je dois avouer que j'étais assez déçue dans la mesure où d'abord, premièrement, j'ai eu la sensation que peu de journalistes participaient à cette discussion, ce qui prouve le peu d'intérêt, à mon avis, que les journalistes accordent à cette discussion, à ce problème. Et les quelques rares qui se sont exprimés n'ont, à mon avis, pas beaucoup abordé les questions de fond, c'est-à-dire quel engagement, au service de quoi le journaliste met ses talents d'informateur. Et on a chipoté sur « mais enfin, peut-on se fier sur telle ou telle autre information ?» Et il semblait surtout que, en fait, finalement, il est vrai que beaucoup de journalistes donnent des informations fausses. Il est beaucoup parce qu'ils ne s'informent pas convenablement, ils ne confrontent pas suffisamment les diverses informations, dans la mesure où les scientifiques eux-mêmes sont partagés sur un certain nombre de données, entre autres sur savoir dans quel état se trouve aujourd'hui la planète, quel état de dégradation. Et deuxièmement, ils sont souvent très intéressés par le scoop, mais non pas tellement par l'information réelle. Il se trouve que, donc, heureusement, quand même, un ou deux journalistes, ou trois ou quatre, ont posé la question de dire « mais enfin, à quoi ça sert de faire tellement peur aux gens, par exemple, avec la question de l'ozone, alors qu'il semblerait que les informations scientifiques réelles, approfondies, ne soient pas assez alarmistes ?» On cherche vraiment à créer la sensation, avec le mot « ozone » écrit en long et en large sur les premières pages, évoquant le terme de « trousse », qui, selon le scientifique chercheur au CNRS qui était présent, c'est une appellation complètement fausse. La couche d'ozone s'amincit, ne devient plus aussi dense puisque le chlore mange petit à petit les cellules d'ozone. Mais il ne s'agit pas de trous, contrairement à ce que l'on a bien voulu le dire, soit à propos de l'Antarctique, soit à propos du fameux nouveau trou qui serait en train de se créer sur l'Europe et sur l'Europe. Quant à la soirée, eh bien là, il y a une rencontre fondamentale puisque M. Maurice Strong, donc, que je vous le disais, le grand organisateur en chef du sommet de Rio, était là avec à la table M. Alain Clerc, qui est le conseiller pour les mêmes questions environnementales auprès de l'ONU, qui est une personnalité suisse. Il y avait un journaliste d'une agence de presse qui a son siège à Rome, mais spécialiste des questions du Sud, M. Slavio. Et il y avait René Longet, qui a posé des questions d'un point de vue plus alternatif et de plus de la préoccupation des associations dites de la collectivité civile. Et beaucoup de questions ont été adressées à M. Strong, auxquelles il a répondu, je dois le reconnaître, avec beaucoup de franchise. On a senti, entre autres, que par exemple... Il lui-même était favorable à des décisions et à des concrétisations de décisions le plus rapidement possible, mais il reconnaissait qu'il avait peu de pouvoir entre ses mains et que ce pouvoir, bien sûr, était dans les mains des gouvernements. Mais que, quant à lui, il souhaitait, ne souhaitait pas que soit reconstruite une de ces immenses machines onusiennes à propos de l'environnement, mais qu'on réanime plutôt celle qui existe. Tout au plus, créerait-on une association, enfin un organisme indépendant des gouvernements, qu'il appelait une sorte de comité concile de la Terre, et qui aurait pour but de piquer aux fesses les gouvernements et les associations gouvernementales pour qu'elles n'oublient pas les engagements qu'elles prendront, en tout cas en mots, lors de la grande rencontre de Rio qui commencera le 3 juin. Il y a eu des questions très intéressantes, entre autres posées par des femmes journalistes brésiliennes. L'une d'entre elles faisait remarquer à M. Strong que lorsqu'il débarquera à l'aéroport de Rio, il aura droit à une très belle autoroute qui le conduira jusqu'à son hôtel sur Copacabana, nouvelle autoroute qui vient d'être construite, qu'il constatera que toutes les plages de Rio, Copacabana, Ipanema, etc., sont toutes magnifiquement propres, que l'eau a été nettoyée, le sable a été nettoyé, qu'on a même installé des pistes cyclables sur ces plages, et qu'on a même nettoyé les rues et surtout éloigné le plus possible la population des bidonvilles. Et comme le disait Margaret Menezes dans sa chanson Negro Menino, quand tu descendras de ta favela, de ta colline, qu'est-ce que tu verras? Eh bien, c'est la même question que posait cette jeune femme journaliste. En fait, qu'est-ce qu'on va faire des gamins dans la rue dont on parle comme par hasard plus du tout? Et c'est surtout pas vers eux qu'on a fait les aménagements de la ville. Mais c'est seulement sur les bords de plage pour les gens qui iront sur les plages entre deux séances de conférences. Et beaucoup d'autres questions posées par une autre femme journaliste brésilienne. Est-ce que l'on ne va pas, encore une fois de plus, rendre dépendant des pays comme le Brésil en leur imposant un certain nombre de directives à propos de l'environnement, mais dont seuls les pays du Nord, les pays développés, sont capables de payer le prix? Parce que c'est vrai que l'environnement, pour que ça change, ça coûte cher pour faire du recyclage, pour faire de la prévention contre la pollution de l'air, de l'eau, etc. C'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Nous avons gaspillé les richesses de notre terre et aujourd'hui, il faut payer le juste prix pour revenir à une stabilisation et une normalisation de la situation. Et ça, bien sûr, les pays du tiers-monde devront à leur façon assumer une partie de ce coût. Mais comme le disait M. Maurice Strong, si on se décide enfin à acheter au juste prix les matières et les produits que fabriquent les pays du tiers-monde, ils seront capables d'assumer une partie du coût que coûtera l'environnement et le nettoyage de la planète au sens large du terme. Et si on paye le juste prix de ces produits, ils auront un revenu qui sera 10 fois plus important que celui qu'ils ont actuellement. Et bien sûr, c'est une grave question et il y a déjà des pays qui ont annoncé la couleur comme quoi ils ne sont pas d'accord d'entrer dans une telle discussion. Et, serez-vous étonnés, les États-Unis sont bien évidemment en tête du troupeau de moutons noirs qui non seulement refusent de payer le prix de tout ce qu'ils ont exploité à bon marché jusqu'à maintenant, en refusant la somme évaluée d'aide aux pays du Sud pour essayer de les aider à franchir une étape dans un développement qui puisse se maintenir à long terme et qui ne soit pas toujours en train de grignoter toujours plus les réserves de la planète. Et qui, États-Unis, qui refusent aussi, bien évidemment, de remettre en cause la question économique, la question des échanges entre les pays du Sud et les pays du Nord. Alors voilà, je crois que c'est les contenus essentiels. Il y a heureusement une femme qui a posé aussi la question de savoir si la conférence de Rio avait prévu de laisser une place pas seulement aux gouvernants, mais aussi aux groupes de la société civile, aux organisations non gouvernementales, mais en particulier donneront la voix aux femmes, puisque la question de l'écologie vue par les femmes ou perçue par les femmes est une chose importante dans la mesure où souvent elles ont une façon d'envisager les choses qui est bien différente de celle des hommes. Et M. Strong de répondre que oui, une de ses assistantes l'avait félicité par rapport aux démarches qu'il avait prises à l'égard des femmes. Alors bon, tout ça sont des beaux mots, M. Strong parle très bien, il est fort sympathique et on sent qu'il est engagé aux côtés de l'avenir de la planète, mais on espère que ces mots se concrétiseront. En l'occurrence, un certain nombre de femmes se sont réunies l'automne dernier, à Miami pour faire justement une série de constats et de propositions à propos de l'état de la planète. Et j'évoquerai au mois de juin, parce que bien sûr nous essaierons d'être un peu d'actualité et d'être en lien avec ce qui se passe à Rio. Rappelez-vous, nous avons quelques antennes brésiliennes, nous essaierons de les faire fonctionner cette fois-ci à propos de cette conférence et pas seulement à propos des conditions de la femme. Eh bien, au mois de juin, nous reprendrons cette déclaration et les résultats de cette rencontre de Miami et puis nous les confronterons avec ce que la conférence discutera. Voilà quelques petites informations et encore une chanson de Margaret Mesich pour se dire au revoir à Rio et à bientôt au mois de juin. La mère nature par Margaret Mesich.
Para o simples compasso da dor, o meu corpo aberto, relembrando a pureza do seu jeito meio, sintetizar a pétala de uma flor, submergindo as tristezas da vida. Não há ser humano que resista ao poder do amor. Natureza, mãe. No céu, uma estrela lua de cetim. Ser amante da ternura, o reggae em seus olhos é pedra de rubi. Madrugada perfeita no céu, uma estrela lua de cetim. Natureza, mãe.
Dans quelques instants, eh bien, nous allons nous retrouver en compagnie des filles de la Terre, ces filles qui habitent et qui habitaient l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, les Indiennes, que nous célébrons cette année pour leurs 500 ans de résistance à la présence des Blancs.
Oh,
Aujourd'hui, c'est de la, des chansons traditionnelles des Indiens des plaines, les Choux, les Sioux, les Cheyennes, qui nous accompagneront tout au long de cette émission, cette troisième émission sur l'histoire des femmes amérindiennes, femmes indiennes d'Amérique du Nord. C'est une femme, Charlotte Heath, qui est membre de la nation Cherokee de l'Oklahoma, qui est une professeure associée de musique et directeur des études d'Indiens d'Amérique à l'Université de Los Angeles, qui a enregistré ce disque. Elle a écrit et édité de nombreux articles, livres, disques, vidéos sur la musique indienne d'Amérique. Et Charlotte Heath a produit plusieurs albums de disques enregistrés sur les différentes régions où vivent les Indiens aujourd'hui. Par exemple, le chant de la terre, de l'eau, du feu et du ciel. Elle a aussi enregistré les chants d'amour sur les animaux, sur la magie, celle qui est donc la musique des Indiens Yurok ou Tolowa. Elle a aussi enregistré la musique des Indiens Pueblo qui vivent dans le sud-ouest des États-Unis ou celui des Navajos qui vivent par exemple dans le magnifique canyon du Shay. Ce que vous entendez en ce moment, c'est une danse pour l'herbe, à la gloire de l'herbe. La plupart de ces musiques et chansons sont interprétées lors de cérémonies, de rencontres sociales. Et pour les Indiens des Grandes Plaines, eh bien, ces rencontres s'appellent des powwows. Alors il y a toutes sortes de styles différents de chants, de tam-tam, etc. selon les régions et les différentes tribus. Mais il y a une forme musicale qui est semblable et qui fait que les musiciens de différentes tribus peuvent quand même jouer ensemble, chanter ensemble, danser ensemble. Alors ces rencontres, ces powwows qui ont lieu en général une fois par année et qui durent plusieurs jours, incluent non seulement la danse mais aussi des repas, la vente d'art et d'artisanat. Et puis on honore des invités spéciaux comme par exemple les vétérans et même les vétérans du Vietnam. Une des chansons est destinée par exemple dans la musique que je vous ferai écouter aux vétérans du Vietnam puisque les Indiens ont été beaucoup recrutés pour partir au Vietnam. Le powwow lui-même a été aussi, et ça c'est l'actualité des Indiens d'aujourd'hui, transplanté dans les villes. Puisque aujourd'hui, à peu près la moitié de la nation indienne est estimée comme vivant dans les grandes villes. Alors chaque powwow, pour s'organiser, a besoin d'un club, donc dans les villes bien sûr, qui est composé des membres de la communauté indienne et qui, durant toute l'année, organise et planifie le powwow qui va réunir tous les membres du clan. Ils ont besoin de réunir de l'argent parce qu'il faudra de l'argent pour accorder des prix, pour déplacer tout le monde au lieu du powwow, pour payer les chanteurs et les danseurs, pour payer un maître de cérémonie et pour, bien sûr, réunir tout le monde en leur envoyant une petite lettre d'invitation. Alors, la musique que vous entendez, eh bien, Charlotte Heath l'a enregistrée lors d'une rencontre annuelle du powwow de Kiheka Stave, je ne suis pas sûre de prononcer comme il faut, qui est un powwow qui s'est réuni en Oklahoma en août 1975. D'autres chants, comme celui que vous entendez juste maintenant, eh bien, a été enregistré dans la région du nord de Los Angeles en octobre 1975 lors d'une fête beaucoup plus informelle qu'un de ces powwows organisés par les Indiens qui aujourd'hui vivent en ville, doivent vivre en ville.
Yeah.
Alors, dans nos émissions précédentes, eh bien, nous avions évoqué le rôle de la femme dans les tribus indiennes autrefois, avant l'arrivée des Blancs, et toutes les différentes coutumes auxquelles la femme participe. Et nous avons décidé de suivre un petit peu le cours de la vie pour évoquer ces différentes traditions. Nous avons évoqué le fait que la femme, le rôle essentiel de la femme indienne en Amérique du Nord est celui de faire des enfants et de s'occuper de la famille.